Le journal, donc, Bernadette Chamonnaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. L'incendie de Castagnet au nord de Nice, toujours pas maîtrisé ce matin, même s'il ne progresse plus. 450 pompiers, des avions bombardiers d'eau, moyens considérables pour venir à bout du plus gros feu depuis 10 ans dans le département. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Sida, l'enquête qui inquiète de plus en plus de séropositifs parmi les jeunes homosexuels. On fait le point avant la conférence internationale sur le sida dimanche à Paris. Le projet de loi antiterroriste arrive au Sénat, l'état d'urgence dans le droit commun, atteinte aux libertés publiques, on en parle avec votre invité à 8h20, Pierre.
Pierre Laurent, le sénateur de Paris et secrétaire national du Parti communiste, vous pourrez l'interroger à partir de 9h20 au standard interactif 01 45 24 7000. Allez-y, téléphonez-nous, le standard est à votre disposition dès maintenant.
Les élus locaux encore plus inquiets sur leurs finances au lendemain de la conférence des territoires. Brexit, le début des négociations à Bruxelles n'incite pas à l'optimisme. Nouveau coup de force des GMS, ils sont en route pour bloquer un site Renault. L'euro féminin de football, le bon cette fois pour les Bleus. Et puis à la maison de la radio, on y parle, on y danse aussi. Grande battle dance dans la maison ronde hier soir pour le coup d'envoi de Paris quartier d'été. On y était bien sûr.
France Inter.
L'incendie de Castagnet à une quinzaine de kilomètres au nord de Nice n'est toujours pas maîtrisé ce matin, même s'il ne progresse plus. Le vent souffle à 40 km heure, les braises peuvent donc reprendre à tout moment. 450 pompiers sont sur place, le travail est extrêmement éprouvant pour protéger des maisons sur des terrains très escarpés. Deux pompiers ont d'ailleurs failli le payer de leur vie hier. Écoutez le président du département, Éric Ciotti.
On a évité une catastrophe en tout début de sinistre avec un véhicule des sapeurs-pompiers qui a été pris au piège de l'incendie. À son bord, un capitaine et un lieutenant qui ont réussi à s'extraire du véhicule et à se réfugier dans un camion citerne et qui ont utilisé dans ce camion les dispositifs qui sont prévus d'autoprotection avec un système d'aspersion d'eau qui a protégé ces sapeurs-pompiers.
Et selon la préfecture d'ailleurs, le dernier bilan fait que 3 pompiers sont légèrement blessés. Ce feu, le plus important depuis 10 ans dans les Alpes-Maritimes, est d'autant plus difficile le travail des pompiers que le feu a pris dans un terrain escarpé, boisé, où sont disséminées des dizaines de maisons, Laurent Vareille.
Il faut s'imaginer des vallons perpendiculaires à cette vallée du Var, des vallons qui surplombent le fleuve, la zone d'activité et la 6202 bloquée toute la journée. Les flammes ont pris là, dans les grands pins très secs, et se sont propagées dans ces pentes très escarpées. 450 sapeurs-pompiers ont été déployés en fin de journée, avec en plus, et c'était nécessaire vu la configuration du terrain, un appui aérien important. Le colonel des pompiers, directeur départemental René Diez.
On a eu 2 hélicoptères bombardiers d'eau, mais ensuite on a eu les renforts avions, et actuellement on a actuellement 7 avions bombardiers d'eau, dont le Dash, le gros avion.
Un garage a été détruit, une maison endommagée, aucune évacuation forcée, mais des habitants inquiets de voir l'incendie aussi près de chez eux.
On a attendu toute la journée que ça s'éteigne et ben, malheureusement ça s'est plus propagé qu'éteint, quoi.
Et là, du coup, là, pour l'instant, vous avez quitté la maison ?
Oui, obligé. Il y avait trop de fumée, irrespirable. Et c'est en fait, elle est encerclée, la maison. Parce qu'il y a un autre incendie de l'autre côté, là-bas, derrière les arbres. Et si la maison d'en bas brûle, la nôtre brûle derrière, quoi. Et il y a d'autres maisons encore derrière.
Ce matin, les pompiers sont encore à pied d'œuvre. La fatigue commence à se faire sentir pour certains. D'autres vont venir pour les relever afin de surveiller l'incendie. Travail qui durera plusieurs jours.
Incendie également en Corse, près de Bonifacio. Là, le feu ne progresse plus, mais les pompiers restent mobilisés. Feu de forêt également dans la Drôme, en Ardèche, toujours sous surveillance ce matin. Chaleur, sécheresse, cocktail incendiaire en Europe du Sud. En Italie, plus de 1000 foyers d'incendie. Au Portugal, des dizaines de foyers qui menacent des villages. Et le Monténégro en appelle, lui, à l'aide internationale, avec des incendies notamment sur le magnifique site des Bouches de Kotor. Sur la côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais, les baigneurs sont inquiets. Ils ont vu apparaître sur les plages des petites boulettes jaunes d'aspect gras, comme de la paraffine. À certains endroits, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Entre Capier et le Cap Grimnet, ça fait quand même une quarantaine de kilomètres. La préfecture assure qu'il n'y a aucun danger grave pour la santé. Des analyses sont en cours. Il pourrait s'agir de graisse liquide rejetée en mer par des bateaux.
8h05 dimanche, Bernadette Chamonnaz, ouverture à Paris d'une grande conférence internationale sur le sida.
Et à cette occasion, Santé publique France, autrefois appelé Institut de veille sanitaire, publie aujourd'hui une grande enquête. L'objectif, c'est de savoir où on en est exactement de la présence du virus parmi les homosexuels. Une grande enquête parce qu'elle ne s'est pas arrêtée à Paris. On est allé voir aussi dans 4 autres grandes villes, Lille, Nice, Montpellier, Lyon. Et l'étude ne se contente pas de déclarations. Elle a été réalisée dans de nombreux lieux fréquentés par les homosexuels hommes. Résultat, Daniel Messager, les contaminations augmentent chez les plus jeunes.
C'est la première fois qu'une enquête regroupe autant d'éléments d'information. Il y a à la fois des questions sur les comportements, des prélèvements sanguins, 2700 hommes fréquentant des lieux de rencontres gays, bars, clubs, saunas y ont participé. Globalement, la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas sur une période donnée, est importante. 14% de séropositifs. Sur les 5 villes étudiées, 3 sont particulièrement touchées, Nice, 17%, Paris et Montpellier, Lyon et Lille le sont moins. Près d'un tiers des hommes n'avaient pas utilisé systématiquement de préservatif et 21% avaient consommé des produits psychoactifs. La situation est préoccupante, en particulier chez les homosexuels jeunes. Le nombre de séropositifs est en augmentation régulière depuis 10 ans. Une explication pourrait être la mutation des lieux de rencontre. Les jeunes utilisent de plus en plus des applications de rencontres géolocalisées au détriment des endroits identifiés comme les clubs où il y a souvent une incitation à la prévention. Un élément de satisfaction toutefois dans cette étude, parmi les hommes diagnostiqués séropositif, 95% étaient bien sous traitement.
Daniel Messager, la conférence sur les territoires, très attendue hier au Sénat par les élus locaux. Et ils n'ont pas été déçus quand le président de la République a annoncé que les collectivités territoriales devraient faire non pas 10 milliards d'économies sur 5 ans, mais 13 milliards. Alors, réaction des participants hier, Antoine Sabag.
13 milliards d'économies au lieu de 10, c'est déjà pas très bien passé chez les élus locaux. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est comment. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, en évoquant de mystérieuses économies intelligentes, ne les a pas aider.
Bien sûr qu'il y a des flous, c'est un discours, il va falloir maintenant que les choses se mettent en place. Hein.
Didier Guillaume est sénateur socialiste.
Il a quand même parlé beaucoup d'autonomie. Moi ça me va. Ça va à quoi tout ce qui tombe de Paris aux collectivités locales de prendre des initiatives.
Ces 13 milliards d'euros d'efforts supplémentaires risquent d'avoir des conséquences très concrètes pour notre vie quotidienne. C'est ce que craint Charles-Éric Leménien. Il préside l'Assemblée des communautés de France.
Très classiquement, c'est les routes, ce sont les réseaux d'assainissement. En plus, ça se voit pas, les réseaux d'assainissement. Donc on le fait pas tout de suite. On a tendance à reporter l'entretien des routes. Bien sûr, on continuera à faire quelques équipements neufs qu'on ira inaugurer.
Et lors de ces inaugurations, il devrait y avoir beaucoup moins d'élus locaux. Emmanuel Macron veut en diminuer le nombre, il n'a pas dit combien. Mais c'est une erreur pour Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains.
Sait-il, Emmanuel Macron, que la plupart des élus sont bénévoles ? C'est ce qui permet à la France de tenir. C'est du civisme. Et on a besoin aujourd'hui de plus de civisme, pas de moins de civisme.
Emmanuel Macron a quand même cajolé les élus locaux en leur promettant de compenser la perte due à la suppression de la taxe d'habitation et en annonçant une accélération du calendrier pour le déploiement du très haut débit sur tout le territoire, 2020 et non plus 2022.
Antoine Sabag, le projet de loi antiterroriste examiné au Sénat à partir d'aujourd'hui. Le texte prévoit de faire entrer plusieurs dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun, un glissement vers moins de liberté. C'est ce qu'estime en tous les cas la gauche, socialiste, communiste, insoumis. On en parlera d'ailleurs dans quelques minutes avec votre invité. Vous pouvez aussi retrouver ce dossier sur franceinter.fr, projet de loi antiterroriste. Entre sécurité intérieure et despotisme doux. Le compte Twitter du ministère de la Culture piraté cette nuit pendant 4 heures avec des tweets insultants, vulgaires. Et dans un tweet, la personne qui a pris possession du compte affirme avoir 13 ans et être en classe de 4e.
Il est 8h09, le Brexit, le deuxième round des négociations a commencé à Bruxelles.
Et côté européen, on en attend beaucoup. Cette fois, on allait entrer dans le vif du sujet, assurait Michel Barnier, le négociateur en chef. Mais au vu de ce qui s'est passé hier, eh bien, les espérances sont quelque peu retombées. Le ciel s'obscurcit un peu plus. Quentin Dickinson.
Bien entendu, l'on n'en est qu'au matin de la deuxième journée d'un cycle qui doit en compter 4. Mais c'est vrai, les échos que l'on a pu recueillir du huis clos de la négociation d'hier n'incitent pas vraiment à l'optimisme ceux qui ici pariaient sur un processus efficace et rapide, compte tenu en particulier du temps vraiment très limité pour mener à bien des pourparlers titanesques par leur ampleur et par leur complexité. Calcul tactique inadapté ou vraie impréparation, toujours est-il que les négociateurs britanniques étonnent par leur pusillanimité et par leur sens étrange des priorités. Ainsi, alors qu'on les attendait notamment sur le casse-tête de la frontière inter-irlandaise et sur le montant de la facture que Londres devra acquitter pour solde de tout compte, ils donnent l'impression de se passionner plutôt pour la sûreté nucléaire et pour le statut des futurs diplomates de l'UE en poste au Royaume-Uni après le Brexit. Mais l'inquiétude véritable des milieux européens est ailleurs. On se demande en effet quelle fiabilité l'on peut accorder le jour venu à la signature des émissaires d'un gouvernement britannique aux aguets, dont la majorité parlementaire ne tient qu'à un fil et dont le Premier ministre est en sursis, alors que les gouvernements écossais et gallois sont en embuscade et que l'opinion outre-Manche est déboussolée et fluctuante. Quentin Dickinson, France Inter, à Bruxelles.
C'est le gros dossier social de ce début de quinquennat. GMES en liquidation judiciaire. Demain, échéance cruciale, le tribunal de commerce de Poitiers se prononce. Oui ou non, l'équipementier automobile peut-il être repris par GMD, le repreneur qui pose des conditions financières. Il veut 15 millions d'euros d'investissement, 5 de l'État, 5 de Renault, 5 de PSA. PSA qui traînerait les pieds, selon Bercy. Alors, les 277 salariés sont aux abois. Ils multiplient les coûts et ils sont partis ce matin pour bloquer le site Renault de Villeroy dans l'Yonne. Audrey Tison vient de joindre Yannick Augra, le délégué CGT.
Alors de Bercy, rien du tout depuis mardi dernier et du repreneur, simplement un mail hier qui indiquait qu'il pouvait pas venir parce que, pour X raisons, hein. Au niveau des avancées de Renault, c'était encore pas finalisé et des avancées de PSA, il manquait encore quelques quand même détails importants. Et au niveau de la SCI, lui, il trouvait pas normal qu'en tant que propriétaire, il devrait payer l'entretien des bâtiments pendant 10 ans. Ça démontre quand même la fragilité un peu quand même de la reprise qui doit se faire mercredi, hein. Ça avance peu et ça avance pas en tous les cas en faveur des salariés, quoi. Donc la mobilisation reste intacte, même si on a des salariés qui vont commencer à prendre des congés. Nous, on sera un maximum à Villeroy pour rester un maximum de temps et faire comprendre que les salariés de la souterraine veulent une reprise au-delà de 120 et veulent aussi que pour les gens qui vont partir, il y ait une extra-légale.
Voilà donc le délégué CGT de GMES et le site Renault de Villeroy qui devrait être bloqué ce matin. La réforme du Code du travail, Jean-Luc Mélenchon appelle à un rassemblement populaire le 23 septembre à Paris. Il continue à dénoncer un coup d'État social et au mois d'août, la France insoumise va faire le tour de la France en vacances avec une caravane d'explications sur cette réforme du Code du travail. La concertation se poursuit avec les syndicats, le patronat et le gouvernement. Le contenu des ordonnances sera présenté fin août aux partenaires sociaux. Ratification prévue à l'automne au Parlement. En sport, l'Euro de football féminin aux Pays-Bas, c'est parti. Et si c'était le bon pour les Bleus, alors qu'elles font partie des meilleures nations du monde, elles n'ont jamais rien gagné. Mais cette année, elles ont réellement leur chance. Sous la houlette du nouveau sélectionneur, Olivier Echouafny, une équipe à la fois jeune et expérimentée. Et parmi les doyennes, la gardienne, Sarah Bouadi, depuis 10 ans en équipe de France Elliott Will.
À 8 ans, elle commence le football comme joueuse de champ. 4 ans plus tard, lors d'un tournoi, le gardien de son équipe se blesse et Sarah Bouadi enfile les gants. Elle ne les lâchera plus. À 30 ans, elle est la gardienne la plus capée de l'histoire des Bleus avec 120 sélections. Un modèle de longévité qui la met une fois de plus en tête de la hiérarchie des gardiennes tricolores, un rôle qu'elle sait gérer.
Forcément, il y a de la concurrence par l'entraînement parce qu'on a envie de tout montrer ce qu'on sait faire au maximum. Après, la concurrence reste saine, donc voilà, c'est ce qui est le plus important. La hiérarchie est établie. Après, à nous, quand on joue, de faire des bonnes prestations pour continuer à être sur le terrain.
Référence dans les cages, la gardienne lyonnaise est aussi une joueuse d'expérience qui connaît les grandes compétitions. En équipe de France, elle a participé à 3 championnats d'Europe et une Coupe du Monde et veut faire de cet Euro l'aboutissement pour toute une génération.
Ça fait plus de 10 ans que je suis en équipe nationale, donc c'est vrai que maintenant on a envie de rapporter quelque chose. On n'a pas encore marqué l'histoire. Avec les anciennes, on a pour objectif de marquer cette histoire. Après, on va demander aussi aux jeunes de nous aider.
Invaincue depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur Olivier Echouafny, la France fait plus que jamais partie des favorites. Les 8 matchs de qualification pour l'Euro se sont soldés par 8 victoires. Mieux, les 27 buts marqués et les 0 encaissés sont le symbole d'un groupe qui fonctionne, de la pointe de son attaque à son dernier rempart, Sarah Bouadi.
Elliott Will et puis le Tour de France après une journée de repos. Eh bien, ça redémarre aujourd'hui. 16e étape entre le Puy-en-Velay et Romans sur Isère qui, comme son nom ne l'indique pas, est dans la Drôme. Dernière véritable étape pour les sprinteurs avant d'attaquer les Alpes. Je vous le disais en titre, à la maison de la radio, on ne fait pas que parler, on danse aussi. Grande soirée, grande battle dance hier. Floor on fire, on brûlait les planches à la maison ronde pour le coup d'envoi de Paris quartier d'été. Corinne Pellissier.
On se croirait dans un grand show télévisé, du gros son, du public, un jury et un chrono. Au milieu, quatre groupes de danseurs aux parcours très différents, de la danse classique, du breakdance, en passant par les arts du cirque. Ils vont devoir pendant 2 heures s'affronter dans une battle pour démontrer leur talent. Baptiste Coissieux, Jean-Charles Jousny, danseur du ballet Presse-Locage, participe à ce Floor on Fire depuis sa création en Allemagne il y a 2 ans.
Le principe, c'est de faire le show de toute manière, voilà, pour que le public en prenne plein les yeux.
Il y a cette ambiance avec les MC, le côté sport US. À peine on met un pied sur la scène, ça crie, ça chante un peu.
Sur de la pop, sur du classique, sur du slam, du hard rock. Une fois, c'est un petit peu déstabilisant. Juste, on y va, on lance l'énergie, la patate.
Pour noter leur performance, les applaudissements du public et les votes du jury composé de professionnels regards affûtés. Par exemple, Carmen Menhart, directrice artistique au Centre européen des arts de Dresde.
Pour moi, le plus important est s'il peut improviser avec des autres styles. Pas seulement la technique, faire quelque chose ensemble avec des autres styles, avec le breakdance ou les ballets. Pour moi, c'est seulement comme une célébration de la danse.
Le festival Paris l'été se poursuit jusqu'au 5 août.
Et c'est 100% gratuit Paris quartier d'été.
C'était le journal de Bernadette Chamonaz.